Vous écoutez Fred Film Radio, je suis Bénédicte Pro, je suis au Centre Georges Pompidou, aujourd'hui en présence de l'auteur d'un des films les plus intrigants de la compétition Premier Long Métrage, Emmanuel Grimaud. Donc ce film c'était Ganesh Yourself. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Il faut quand même préciser que ce film, qui n'est pas votre premier, c'est votre premier long métrage, mais vous avez déjà fait des cours, vous êtes chercheur au CNRS, enseigné à Sciences Po, vous éduquez Branly. Votre champ géographique, c'est plutôt l'Inde, et votre sujet de prédilection, c'est plutôt le mouvement et la kinétique, c'est-à-dire aussi la robotisation. Alors, dans Ganesh Yourself, c'est effectivement un robot qui est au centre de l'expérience, mais cette fois, il libère plutôt la parole. C'est un robot donc qui est censé être Ganesh. Et pendant, à Mumbai, pendant la fête de Ganesh, vous le faites interagir avec les gens. Mais cette fois, donc, c'est plutôt la parole que vous mettez en avant. Quelle est la question, en fait, qui est à l'origine de ce projet, la question par rapport à votre recherche que vous êtes posée et à quoi devait répondre ce film ?
L'idée, c'est que ça fait pas mal de temps que je vais en Inde pour travailler comme anthropologue. Et puis, les questions de religion, généralement, ne sont pas abordées de manière très expérimentale, parce que c'est une sorte de boîte noire, la relation des hommes et des dieux. Et là, je voulais créer un dispositif qui permette, d'une certaine façon, de faire des expériences et de se mettre à la place de Dieu, enfin, que les gens puissent se mettre à la place de Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un robot de Ganesh, qu'on a fait avec Zaven Paré. Et vous pouvez avoir votre image projetée dans le robot, et puis votre voix aussi, celle du robot. Et on a ouvert une sorte de cabinet quand on est arrivé à Bombay qui s'appelait Ganesh Yourself, où on permettait à des gens d'incarner Dieu et puis à d'autres de venir rencontrer Dieu et lui poser des questions. Et donc voilà, c'était une sorte de dispositif expérimental en psychologie des religions, si vous voulez.
Et quelles étaient les consignes que vous donniez ? Parce que ce qui est assez surprenant, c'est qu'on se rend compte que les gens qui parlent à ce dieu robotique, comme les gens qui jouent le Ganesh, ont des propos très intelligents, des sortes d'exégèses vraiment très intéressantes. Et est-ce que c'était un peu guidé ? Est-ce qu'il y avait des consignes ?
Il n'y avait aucune consigne, c'était complètement de l'improvisation. On est juste arrivé avec le dispositif. On a été surpris que, d'une certaine façon, ce soit accepté et que les gens en jouent autant, mais on n'a absolument rien fait pour orienter quoi que ce soit au niveau des conversations. On s'est contenté, d'une certaine façon, de faire fonctionner le dispositif de parole. C'était ça notre objectif. Après, il y a eu plein de gens qui se sont proposés comme incarnants. On avait fait un casting au début. Et puis, on a écarté quasiment tous les acteurs parce que ça ne nous intéressait pas d'avoir des acteurs. Donc, on a eu des gens qui étaient des activistes politiques, des astrologues, je sais pas, il y a un militant féministe, gay, voilà, des gens comme ça. Et puis on a promené le robot dans Bombay, et là il y a plein de gens qui se sont proposés aussi, qui ont voulu tenter l'expérience, sachant que, enfin, personne prenait le robot pour un dieu, littéralement, si vous voulez. Ça a toujours été l'occasion d'une sorte de jeu presque métaphysique, parce que c'était un peu un test à la Turing. Vous voyez le test de Turing où vous mettez une machine dans une cabine et puis vous avez quelqu'un qui échange des messages avec la machine et qui doit deviner si c'est un homme ou une femme. Et Turing se disait, mais c'est en fait, la question de savoir si les machines pensent n'est pas intéressante. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir dans quelles conditions une machine peut nous tromper sur le fait qu'elle pense. Et là, on s'est dit, on reprend l'idée du test de Turing en enlevant le côté, supercherie de la chose, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de tromper les gens du tout, parce que tout le monde était au courant qu'il y avait un homme qui était au contrôle du robot, qui était l'opérateur, et on n'a rien caché. Mais justement, même quand on cachait rien, c'était l'occasion d'avoir une conversation avec une sorte d'entité qui pouvait être considérée soit comme un humain, soit comme une machine, soit comme un dieu. Ça dépendait effectivement de ce qui était dit par l'incarnant. Mais c'était à la personne qui discutait avec le robot de mettre à l'épreuve l'objet, si vous voulez, enfin cette entité, et de décider s'il avait affaire à Dieu ou pas. Donc c'était souvent l'objet d'une une conversation très longue où les gens se disaient, là ce que j'ai entendu, effectivement, ça se rapproche de ce que j'imagine être la voix de Dieu, ou ça se rapproche pas du tout, parce que généralement, ça se rapprochait pas. C'est-à-dire que le travail qu'il faut produire pour bien incarner Dieu est énorme. Et c'est généralement, on doit faire face à des questions qui sont extrêmement dures à résoudre. qu'est-ce que vous faites pour le trafic, la pollution, pour résoudre le problème de mes enfants, etc. On essayait même de le coller parfois en lui posant des questions assez pointues sur la métaphysique ou sur le yoga ou je sais pas quoi, ou sur les textes religieux. Et donc c'était une véritable mise à l'épreuve.
Ils prenaient le rôle au sérieux d'ailleurs, ceux qui jouaient les dieux.
Ceux qui jouaient les dieux prenaient le rôle très au sérieux parce que c'était presque, si vous voulez, enfin, là où nous ça nous a intéressé, c'est qu'on parle beaucoup de transhumanisme aujourd'hui, et enfin l'idée qu'on va se prolonger dans des machines, etc. Là on avait une interface qui permettait aux gens effectivement d'être Dieu pour un moment et d'imaginer ce que c'est que de se mettre à la place de Dieu, qui est quelque chose de très difficile, sachant que. En fait, on a découvert finalement après l'expérience les raisons pour lesquelles les dieux ne parlent pas de manière générale dans les religions du monde entier. C'est-à-dire que parce que c'est extrêmement difficile. Alors on le fait parler par des médiateurs souvent, mais Dieu ne parle pas sauf sous forme de voix intérieure aux gens, etc.
Mais ce qui est d'ailleurs amusant dans cette machine, c'est qu'elle n'est pas filtrante. Enfin, comment dire, elle serait plutôt une potentialisation de la parole plutôt qu'elle ne la médiatise en fait.
Ouais, effectivement, c'est une drôle de médiation parce que. C'est vrai que alors vous avez votre visage en tant qu'opérateur qui est projeté dans le robot, et puis là, donc la personne qui consulte le robot fait face à cette espèce de masque avec une trompe et qui a un visage dedans. Et par exemple, enfin il y a les astrologues quand ils ont utilisé la machine, se sont dit mais c'est génial comme dispositif pour une consultation astrologique parce qu'on dit des choses à la personne qui consulte. Qu'on dirait pas autrement. Et même chose pour la personne qui consulte, qui dit mais je dirais des choses à la personne qui est en face de moi que je dirais pas si je l'avais en face. Là je l'ai à travers une sorte d'interface qui crée un effet de distanciation, donc un effet d'invisibilité aussi. On se dit que la voix vient d'ailleurs, donc il y a clairement une sorte d'effet de sacré ou d'interface mystique, si vous voulez, qui marche de manière assez forte.
Alors, le film se passe donc à Mumbai. Mumbai, c'est la ville du Bollywood. Et c'est vrai que les Indiens ont en général tendance à accepter le déplacement d'une forme à l'autre, d'une entité abstraite assez volontiers. Et notamment dans les films de Bollywood, les Deus Ex Machina, vraiment, qui pour nous seraient pas du tout crédibles. Enfin, eux, ils acceptent vraiment avec beaucoup de bonne volonté, enfin, ce genre de dispositif. Mais là, c'est vraiment un artefact qui se manifeste comme artefact, qui porte son masque. En quoi c'est ce robot, en quoi le fait d'avoir un robot et pas une représentation en papier mâché ou une représentation plus traditionnelle produit un effet différent?
On a essayé de retrouver des problématiques qui se posaient en robotique. Enfin, il y a une expérience célèbre de Masahiro Mori qui est sur la vallée de l'étrange et qui est l'idée que, a priori, quand vous faites un robot, plus vous lui donnez une forme humaine, plus vous créez un effet d'empathie. Et il y a un moment, quand ça se rapproche trop de l'humain, vous créez l'effet inverse qui est un sentiment de répulsion. Et là, on a une expérience qui est de cet ordre-là, parce que le fait qu'il y ait un visage qui apparaît dans le robot, ça crée un effet de perturbation, si vous voulez, parce que les idoles de Ganesh, normalement, elles sont très dépersonnalisées, enfin très belles, mais elles renvoient aucun visage en particulier. Là, on a un visage humain et on a une personne même qui est derrière. Et donc, ça crée effectivement une sorte d'effet dérangeant dans l'interaction. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu'est-ce que ça veut dire. Et pour la plupart des gens qui jouaient le jeu, l'idée, enfin, qu'ils en tiraient, c'était que, effectivement, Ganesh pouvait être dans n'importe qui d'entre nous. Et pour les incarnants aussi, c'était un peu la même idée. C'est montrer aux gens que Ganesh pouvait être n'importe où, qu'on pouvait faire face à lui dans d'autres corps humains. Voilà. Donc c'était d'où le titre, Ganesh Yourself, c'était cette idée.
Je parlais de candeur dans la manière dont les Indiens acceptent vraiment facilement de jouer le jeu et de déplacer les représentations abstraites d'une forme à l'autre. Mais justement, je trouve qu'il y a quelque chose de pas candide, qu'il y a un vrai recul dans la manière d'approcher justement la question religieuse.
Ils sont extrêmement critiques par rapport à ce qui vient en face d'eux. Enfin, ils prennent jamais au premier degré ce qui est dit par le robot. Et au contraire, ils font tout pour le pousser dans ses derniers retranchements. Et voir si effectivement il y a quelque chose de divin dedans. Mais ils décident après effectivement une mise à l'épreuve qui est extrêmement dure pour l'incarnant. Il y a quelque chose de très sage qui s'exprime du coup dans les interactions. Parce que les gens ont totalement conscience du dispositif. Et même quand on sait qu'il y a un humain derrière, que c'est une machine, que c'est tout ça, on se dit quand même que dans ces conditions-là, enfin voilà, Dieu pourrait exister. Donc il y a toujours cette possibilité. Mais enfin, si vous vous promenez en Inde dans les villages, par exemple, vous allez souvent des anthropologues qui racontent cette histoire. On vous dit, vous voulez vous asseoir sur une pierre et on vous dit, vous asseyez pas là, ça pourrait être une déesse. Parce que par intermittence, on sait jamais, effectivement, dans cette pierre, il pourrait y avoir une déesse. Donc, voilà, Dieu pourrait être partout, mais il faudrait en faire la preuve. Il faut le mettre à l'épreuve, d'une certaine façon. Et donc, ça met les gens en position extrêmement active. C'est-à-dire, à chaque fois, de se dire, est très critique. Enfin, il y a une forme de, comme ça, de sagesse critique. Et puis, il y a une culture théologique aussi chez les gens qui est extrêmement poussée. Enfin, on se rend compte dans le film que, voilà, il y a des gens dans la rue, même dans des bidonvilles, qui peuvent parler de concepts religieux. Voilà. Et c'est tout, effectivement, sauf de la candeur. Il y a quelque chose d'assez universel dans le film. Alors d'abord, parce qu'on s'aperçoit que les gens qui viennent voir le robot viennent avec des questions qui sont partagées par tout le monde, qui pourraient être celles qu'on se pose aussi, nous, ailleurs, dans d'autres religions. Donc on vient tous face à ce Dieu avec nos problèmes et tout ça. Et d'une certaine façon, la réponse, elle est, c'est quand même quelque chose qui invite à une réflexion, alors intérieure, si vous voulez, sur le fait que finalement, quand même, Dieu est une sorte de création de l'homme, mais à son insu, si vous voulez, et que c'est quand même beaucoup une affaire d'intériorité. L'interaction avec Dieu est toujours sur le mode du doute. Et c'est ça qui est très beau et qui rend le film, enfin il me semble, universel.
Eh bien très bien, merci Emmanuel Grimaud d'avoir répondu à mes questions sur le film Ganesh Yourself. Merci beaucoup.
Merci.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.